Je passe le micro. Pas trop habitué que c'est déjà. Est-ce que tout le monde m'entend? Super. Bonjour à chacune et à chacun, à ceux que nous avons vus ce matin et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de saluer. Avant d'aller plus loin, deux choses. La première, c'est vous remercier pour vos prières qui nous ont beaucoup porté, qui nous ont encouragé aussi avec Virginie durant la semaine qui vient de s'écouler. C'était une semaine assez compliquée, mais le Seigneur fait grâce et nous a vraiment béni, encouragé et aussi relevé, puisque je me tiens devant vous ce matin. La deuxième chose, c'est que je transmets les salutations de frères et sœurs que vous ne connaissez pas dans la plupart des cas, mais qui sont de la Réunion, donc de l'église en particulier que nous avons eu l'occasion de visiter cet été, donc l'église de Saint-Pierre qui se trouve dans le sud de l'île et l'église de Brapanon qui se trouve un peu plus vers l'est, donc qui vous transmettent bien leurs salutations et qui prient aussi pour nous tous ici depuis là-bas. Donc, 10 000 km, ça fait quand même moins, mais le Seigneur porte les prières, il n'a pas de limite dans l'espace, c'est encourageant. Ceci étant dit, on parle de construction ce matin. Alors, j'ai pas l'impression que le Seigneur veuille qu'on parle particulièrement du secteur du BTP, mais en tout cas, il veut que nous parlions de construction ce matin et dans la finalité de cette construction. Pourquoi on construit les... Et une des réponses possibles se trouve dans notre réflexion de ce matin que je vous invite à prendre dès maintenant, c'est dans le psaume 133. Que beaucoup connaissent, mais qu'il est toujours bon de se remémorer, de relire, de décortiquer. Je lis moi dans la seconde 21, que d'autres traductions auront des mots sensiblement différents, mais en tout cas, le sens est le même, qui nous parle, ce psaume 133, de l'amour fraternel. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile versée sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. Et qui coule sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est vrai que dans les jours actuels, dans un monde un peu, enfin, toujours plus égoïste, toujours plus nombriliste, idolâtre, toujours plus dur, vous savez que la pandémie n'a pas provoqué certaines choses, mais en tout cas, elle a mis un coup de projecteur dessus, et il y a pas mal de choses qui ont été révélées par ça. Et depuis l'année dernière, j'avais entamé une réflexion avec quelques-uns, avec Virginie, avec d'autres frères aussi, là-dessus, sur ce que le peut révéler, peut montrer du doigt à son église, à ses églises, bien sûr, dans divers endroits du monde, mais à son église, l'église de Christ, en disant, là, il y a quelque chose que je voudrais que tu observes, mon église. Et il est bon de prendre ces temps-là pour y réfléchir. On remarque que dans ce psaume-là, déjà, il y a une notion qui revient, c'est celle de l'amour fraternel. Et c'est une ressource qui est inestimable. Et cet amour fraternel, cette notion d'amour fraternel, en grec, ça vient d'un mot qui s'appelle Philadelphia, l'amour pour les frères et pour les sœurs. Et c'est une des dernières recommandations d'ailleurs de Paul aux Corinthiens, ayez un même sentiment. Et son dernier souhait qu'il adresse, qui est le suivant, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13, versets 11 à 13. Donc, en communion dans un même sentiment, l'amour, bien évidemment, dont nous parle ce psaume 133. C'est aussi un des chants des montées, c'est même l'avant-dernier. Chant des montées. Alors, qu'est-ce que cette expression? C'est tout simplement puisque, à l'époque du peuple d'Israël, plusieurs fêtes dans l'année amenaient de tout le territoire d'Israël vers Jérusalem, donc, puisque Jérusalem, par rapport au littoral, est en altitude. Et bon, le peuple se rassemblait dans ces occasions-là. Et c'était aussi l'occasion pour eux de chanter des louanges à Dieu sur le trajet en montant vers Jérusalem. Dans ce contexte-là, on comprend qu'il décrit le bonheur des Israélites qui sont venus au Moyen-Âge, où ils se sentent plus qu'ailleurs, frères les uns des autres et frères d'une même nation. Certains auteurs parlent d'une dimension patriotique, à ce moment-là, puisqu'ils se sentent frères et sœurs d'une même nation. D'autres auteurs vont aussi parler d'une dimension ecclésiastique, parce que ça se passe autour de Dieu, et ça se passe aussi beaucoup de fêtes dans le temple, et c'est l'effervescence à chaque fois qu'il y a un peu ces événements-là, donc dimension ecclésiastique. Et d'autres auteurs aussi pensent à la défense de la famille intime, domestique, peut-être une dimension plus patriarcale. Donc une triple dimension, donc un amour fraternel 3D, déjà à l'époque. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. On parlait ce matin dans le texte d'Agé de la construction, mais la finalité, pourquoi on construit, c'est pour y vivre dans cette maison construite. Et là, en l'occurrence, avec les uns et les autres. Qu'il est bon et agréable que des frères et sœurs habitent unis ensemble. Les éditions de ce psaume 133 vont célébrer la joie débordante d'un peuple autant dispersé et enfin rassemblé. Un peu comme nous, quand on est un peu dispersé partout en région parisienne, un peu pour le travail, en semaine, mais qu'on a cette joie de se retrouver pour célébrer le Seigneur ensemble, à l'image de ce qui a été fait jusqu'ici, ce matin, durant nos temps de culte. On les lit fréquemment, ces versets-là. Ça nous apparaît d'autant plus admirable qu'elles traduisent peut-être quelque chose d'encore trop rare ou trop timide parmi nous, dans les groupes, comme il est bon et comme il est doux. Et le psaume insiste non seulement sur le vivre ensemble, mais aussi sur l'unité. Il n'est pas juste ici question d'une addition de personnes dans quatre murs. Il faut aussi que ces personnes-là soient unies ensemble, nous dit le psaume. On peut bien vivre côte à côte, sans conflit, mais ce n'est pas à quoi faut-il l'union des esprits et des cœurs. Alors ça amène quand même quelques questions, parce que je vais vous en poser pas mal dans ce message, mais je laisse à chacune et à chacun le soin de s'examiner soi-même et de répondre peut-être pour lui-même, pour sa part, dans le silence de son cœur, devant Dieu. Est-il toujours bon, première question, et agréable, en 2000 encore, de fréquenter les frères Christ? Est-il encore bon et agréable de venir à l'Église, de participer à la vie de l'Église et d'être en communion, demeurer ensemble les uns avec les autres? Première question qu'on peut se poser. Deuxième question, qu'est-ce qui peut peut-être nous empêcher, nous freiner pour vivre pleinement la communion fraternelle au sens de ce que Dieu nous dit à travers le psalmiste dans son texte? Troisième question, comment dans nos cours de vie, comment dans nos contraintes dans l'Église, les choses ensemble, puisque c'est ce que Dieu pour nous, bref, comment demeurer, comment être unis ensemble dans cette construction de l'Église. Et Dieu, pour nous aider à répondre à la question, il n'y a pas de recette miracle toute faite, je ne vais pas vous sortir un plan, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais dans ce texte, déjà, Dieu nous donne des indications, dont des clés de compréhension aussi, pour que nous puissions vraiment méditer et compter sur son aide à travers son esprit pour nous éclairer sur ce sujet. Ces indications nous amènent à nous interroger, aussi à faire des constats sur notre propre vie de disciple, notre vie de famille, notre vie d'église aussi. Et parfois, ça pique. Mais quoi qu'il en soit, Dieu, dans sa grâce, avec son aide, nous met à cœur des choses à vivre et à faire. Comme vous le disiez tout à l'heure, Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour exécuter sa volonté. Il ne nous laisse pas tout seul, et heureusement pour nous, j'ai envie de dire. Il intervient pour que nous puissions vivre une vie d'église heureuse, abondante, pleine d'espérance, mais aussi lucide. Pas que nous soyons bercés d'illusions, de compréhensions erronées. Alors, la première chose, du coup, les hommes dans ce texte, l'Esprit de Dieu emploie dans ce psaume une double image pour parler de cette unité des frères et sœurs dans leur habitation. Les images de l'huile précieuse, tout d'abord, et la rosée de l'herbe. Alors tout d'abord, sur l'huile précieuse, on peut voir un petit peu cette notion-là détaillée dans Exode, les chapitres 29 et 30 du livre de l'Exode, tant qu'elle était répandue sur la tête d'Aaron seul. Donc, au jour de sa consécration, il en était fait aspersion ensuite, en même temps que du sang, sur Aaron et ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements, on dit Exode 30, verset 30. Mais elle n'était répandue et ne coulait que sur le chef de la famille des sacrificateurs. Et en fait, ce rituel le rendait propre pour l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que ses fils avaient aussi aspersion sur leurs vêtements, mais c'était mélangé avec du sang. L'huile seule coulait d'abord et seulement sur la tête d'Aaron, puisque c'était lui le chef de la famille des sacrificateurs. L'huile précieuse atteste que tout répond aux critères de sainteté de l'Éternel. Et cela veut dire que l'Éternel accueille le sacrifice parce que d'abord, il accueille le sacrificateur dans ses fonctions. Ainsi, c'est qui demeure et qui habite unis ensemble, c'est à la fois le résultat et l'expression de cette mise à part faite par Dieu lui-même en vue d'un mandat de sacrificateur, d'un ensemble déjà préparé par le travail du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut clairement dire que c'est l'Église. Et l'onction descendant de la tête, Christ qualifie le service. Et Christ, par l'action de son Saint-Esprit, donc symbole de l'huile hein, dans l'Ancien Testament, nous sommes un. Et le Saint-Esprit sur nous, dès notre conversion, fait sur nous ce même parfum de la parfaite satisfaction que Dieu lui-même trouve en Christ. Il fait de nous, vous savez, son royaume de sacrifice. On parle Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Les conditions de vie des membres du corps, qui peuvent être professionnelles, familiales, relationnelles, culturelles, et les services dans l'Église sont de la plus grande diversité. On est tous différents. Dieu l'a voulu ainsi, mais l'onction est la même et elle consacre l'unité de toute cette diversité-là. Voilà pour ce qui est déjà sur la, pour expliquer un peu l'huile précieuse. Maintenant, la rosée de l'air. Alors, il y a quelques temps, Virginie et moi, on a eu le plaisir, la grâce, parce que c'est un vrai cadeau, d'aller faire un petit tour à Jérusalem et de se balader un petit peu comme ça à droite. Et au niveau du lac de Tibériade, au nord, le Liban, un peu à droite, la Syrie, entre les deux plateaux du Golan et au centre, le mont Hermon. La rosée de l'Hermon qui fait référence là au mont Hermon qui fait qu'il y a une petite colline d'environ 2814 mètres. Belle colline quand même. Et les cours d'eau qui se jettent dans le Jourdain par le lac de Tibériade et vont couler à travers le pays entier sur à peu près 360 km. Ce n'est pas un état très très gros Israël. Mais le Jourdain, qui est à peine aussi large qu'ici par endroit, ça coule sur 360 km et va irriguer tout l'ensemble du territoire par ce moyen. Et c'est ici la bénédiction qui descend. La fraîcheur de la montagne la plus élevée d'Israël devient le partage des hauteurs plus basses et qui serait sèche complètement sans ce contact. Dieu connaît là la bénédiction et la vie pour les chrétiens. Mais c'est de la plénitude du Christ glorifié que descend grâce, sur nous, son Église aujourd'hui. Sans la rosée de ces bénédictions célestes que l'œuvre de Christ opère en nous, on ne serait nous aussi que des petites montagnes, toutes sèches. Et ce serait bien triste. Infertile. Et par l'image de l'huile précieuse, c'est-à-dire du ministère de sacrificateur en Dieu par Jésus-Christ, rosée de l'Hermon, c'est-à-dire les bénédictions enrichissantes par l'œuvre de Christ, Dieu, le Seigneur, nous fait comprendre que ces deux aspects de la vie chrétienne marchent de pair avec la communion des frères entre eux. Communion fondée non pas sur ce que je pense de moi, sur l'appréciation des autres, sur ce que pense personnellement Denis, de Dany, de Cécile sur Virginie, ou de sur un tel ou un tel. Ça ne dépend pas de ça. La communion des frères entre eux repose, elle est fondée sur la relation avec Christ. Il est bon et agréable que les frères habitent unis ensemble. Tous les chrétiens sont frères en Christ. Ils sont tous membres de son corps. Et Dieu nous fait la grâce de connaître par sa parole le vrai centre de rassemblement. Ce n'est pas le 56 bis ou l'Étienne Marcel. Bien qu'on soit content d'avoir retrouvé des locaux, le vrai centre de rassemblement, c'est Christ. L'amour qu'on a les uns pour les autres reflète notre relation à Christ. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, comme j'aime Christ au final. Une vie d'église heureuse et abondante, pleine d'espérance, c'est le deuxième axe de réflexion, mais une vie abondante, pleine d'espérance, mais aussi lucide. Parce qu'il y a certains constats quand même que ce texte nous amène à faire. Il y a un livre qu'un auteur a écrit qui s'appelle Philippe Yancey, donc son livre s'intitule Déçu par l'Église. Parce qu'on peut être déçu par l'Église, c'est déjà un constat en soi, rien que dans l'intitulé. Philippe Yancey, donc, dans son ouvrage, va rapporter le témoignage d'une personne qui dit la chose suivante. Vivre là-haut dans l'amour avec les saints, ce sera vraiment la gloire. Mais vivre ici-bas avec les saints que je connais, c'est une autre histoire. Hélas, les frères et sœurs peuvent habiter ensemble, mais ne point s'entendre. Combien de fois cette humiliante tristesse de la mésentente se manifeste dans nos familles, dans notre travail et dans l'Église, même parfois pendant ou en marge des cultes, des temps de prière, des études bibliques, des temps de louange, de jeûne, des temps, bref, d'activité de la vie d'Église. Ça peut peut-être ne pas être entendu directement, mais ça peut au moins. Nous parlons beaucoup de communion. Et dans les faits constatables de la vie de tous les jours et dans la vie d'Église, nous avons parfois tendance à en faire quelque chose de lointain, où la communion fraternelle, Dieu la veut dans son Église, et écrit dans le psaume 133, ce serait un peu, pas de la science-fiction, mais une expression vidée de son sens, finalement, puisqu'on se laisse toujours regagner par nos travers, et parfois même inconsciemment, on n'est même pas conscient. C'est pour ça qu'il faut bien placer les choses, être précis sur les choses et savoir ce qu'est la communion fraternelle et ce qu'elle n'est pas. Parce qu'on pourrait avoir tendance à confondre les choses et le Seigneur est très exigeant là-dessus. En parcourant l'histoire du peuple d'Israël, déjà dans l'Ancien Testament, de l'Église, de la nôtre, puisqu'on a parlé de ça hier pendant toute une journée, on peut déduire des passages et du vécu, du témoignage des Églises, que la communion fraternelle, c'est déjà partager le même salut, le même Seigneur, amour pour lui. C'est le célébrer d'un même élan, d'un même cœur. J'aime bien d'un même élan, je crois que c'est Jérôme qui avait utilisé cette expression-là hier, d'un même élan. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous partis, vous savez, comme les faux départs, il y en a un qui part et puis tous les autres suivent derrière, et c'est pas bon. Tous en même temps, vers un même but, d'un même cœur, dans les différents temps de la vie d'Église, que ce soit les cultes, louanges, adorations, saintes scènes ou de jeûnes. D'autre part, dans Néhémie, chapitre 8, verset 1, tout le peuple est uni en communion fraternelle. Donc la communion fraternelle, c'est comme être un seul homme. On dit le 1 de Néhémie 8 pour la lecture communautaire de la parole de Dieu, l'exemple qui est donné dans ce passage. Dans acte 2, verset 41 et 42, 3000 disciples qui persévèrent ensemble, qui font un seul corps dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, qui font un seul corps dans tout ça. Ça, c'est de la communion fraternelle. Enfin, dernier exemple, dans Apocalypse, chapitre 4, versets 9 à 11, les 24 vieillards qui se prosternent d'un même élan, en jetant leur couronne et en adorant puissamment celui qui est assis sur le trône. Ça aussi, c'est de la communion fraternelle entre eux, d'un même élan, ils se prosternent et adorent le Seigneur Tout-Puissant sur son trône. On voit à peu près, au travers de ces divers exemples, ce à quoi ressemble la communion fraternelle. Il y en aurait d'autres, hein, il y en aurait plein d'autres, mais ce sera encore là jusqu'à la semaine prochaine, si je devais tout détailler. Mais en tout cas, ça nous dit aussi ce que la communion fraternelle n'est pas, ou pas que, pas seulement. La communion fraternelle, c'est pas, je disais tout à l'heure, une addition de personnes individuelles qui n'ont pas le souci spirituel des autres et qui sont rassemblées dans quatre murs, comme dans le monde, on pourrait trouver ça dans des associations, des syndicats, des choses comme ça. C'est l'Église. La communion fraternelle, c'est pas non plus l'amitié. Oui, parce que souvent on a tendance à faire la confusion. Alors, amitié qui est vraiment chouette et qui peut être vécue dans le cadre de la communion fraternelle dans l'Église, mais l'amitié n'est pas la communion fraternelle. Et la communion fraternelle n'est pas de l'amitié. Exemple, tout simplement, deux petits exemples pour illustrer ça, c'est que Jésus était en communion fraternelle avec ses apôtres, mais il était plus proche de Jean, par exemple, qui était appelé le disciple que Jésus aimait. Il y a bien là une dimension qui est particulière dans la relation, qui fait que Jean avait un rapport particulier à Jésus, au-delà de la simple communion fraternelle. Par ailleurs, Jésus appelait aussi Judas mon ami. On voit bien que la communion fraternelle n'est pas que de l'amitié, puisque ce dernier, Judas, Jésus l'appelait mon ami, mais Judas, lui, n'était plus en communion avec Christ depuis un moment. Rappelez-vous ce verset terrible de Matthieu, chapitre 26, verset 50. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Ce n'était pas de la franche amitié, d'un esprit de camaraderie, et encore moins de la communion fraternelle. Donc l'amitié seule ne définit pas la communion fraternelle, et la communion fraternelle n'est pas qu'une affaire d'atomes crochus. Ça va bien au-delà, nous l'avons vu juste avant. La communion fraternelle, là, ça va peut-être vous sembler une évidence, mais c'est toujours bien de se le rappeler. La communion fraternelle, ce n'est pas non plus l'attitude du deuxième fils dans la parabole des deux fils, Luc 15. Ce qui habite une même maison, l'un s'en va, mène sa vie, fait des bêtises, mais il se repent, il demande pardon, il revient dans la maison du père. Et l'autre frère, c'est de celui-là que je parle, qui est resté tout le temps, qui lui aussi est de la maison du père, lui il n'est jamais parti, il est toujours resté là. Quelle a été son attitude? Ça a été de bouder dans son coin quand son frère est revenu. Est-ce là la communion fraternelle? Certainement pas. Or, la communion fraternelle suppose que tous les frères demeurent unis ensemble. Et notre manière d'interagir avec les frères et les sœurs, même quand ils nous ont blessés, va en dire long sur notre relation d'intimité avec Christ. Et c'est deux questions supplémentaires que nous posons. Comment interagissons-nous les uns avec les autres? Avec notre frère, notre sœur, notre conjoint, comment interagissons-nous avec nos responsables? Parfois, même quand ceux-ci n'ont pas fait le bien qu'on aurait souhaité, nous ont fait le mal qu'on ne souhaitait pas. Et deuxième question, et qu'est-ce que cela dit de ma relation et de mon intimité avec Christ? On ne peut pas vivre cette communion fraternelle sans une vigilance continue, et dans la mesure où chacun se tient près du Seigneur et va se discipliner à l'obéissance de Dieu, et de ce qu'enseigne la parole, plutôt qu'à l'obéissance de la chair, et en marchant par l'Esprit de Dieu plutôt que par sa propre culture, sa propre intellectualité, son intelligence obscurcie, souvent par une trop grande bouche aussi revendiquée et qui ne bénit en rien les frères et les sœurs. Bref, à marcher comme des chrétiens spirituels, nés de l'Esprit, plutôt que comme des chrétiens charnels, fonctionnant avec une chair dominée par les valeurs de ce monde. Mais il n'y a qu'à allumer la télé pour regarder les infos. Toutes sortes de doctrines qui font plaisir à la nature humaine, à la chair, à la nature propre. Les gens se donnent des foules de docteurs, comme on dit la parole, pour s'entendre dire des choses qui font plaisir. Parce que franchement, ça m'arrange. Et les exigences de Dieu, quand il place la barre là dans ses exigences, et bien parce que ça ne m'arrange pas, je vais rabaisser cette petite barre pour pouvoir passer au-dessus, parce que c'est au niveau de ce qui m'arrange. Est-ce là vraiment ce que le Seigneur attend? Je ne pense pas. Il est nécessaire de nous laisser sonder par la parole sur ce point, car nous sommes toujours les plus rapides à nous plaindre du jugement et du manque d'amour de nos frères ou de nos sœurs, alors que dans la majorité des cas, et c'est là tout le paradoxe, c'est nous qui les jugeons mal et mal dans la plupart des situations et qui manquons d'amour envers eux. Dès lors, du coup, la vraie question, ce n'est pas est-ce que j'ai fait du mal à mon frère ou à ma sœur, est-ce que j'en ai déjà fait? La question, c'est quand est-ce que j'ai fait du mal à mon frère ou à ma sœur, à mon conjoint, à mes responsables, à mes enfants, à mes collègues? Nous manquons d'amour envers eux, mais dans le cadre de l'Église, il est dit qu'on habite unis ensemble. C'est-à-dire que c'est là que se vit et s'expérimente l'unité fraternelle vitale pour la croissance du corps de Christ. Vous voyez, on parle de construction. Il faut imaginer que cette construction que Christ a voulu, l'Église, eh bien c'est une gigantesque maison où chacun de nous a sa chambre. Chacun de nous a des espaces communs où on se retrouve tous les uns les autres. En fait, une maison où on habite tout le temps ensemble. Est-ce que ce serait facile à vivre dans le monde? Visualiser la chose 2-3 secondes. Avec mes habitudes, ce que j'ai envie, ce que fait l'autre qui me plaît, ce que fait l'autre qui ne me plaît pas, au bout d'un moment, ça clash. Dans tout rapport interpersonnel, au bout d'un moment, il y a des tensions. Ce n'est pas à vous que je fais apprendre ça, on en a discuté hier. Mais en tous les cas, c'est bien là que Christ nous a dit. Il ne nous a pas dit, bon, bien, si là ça ne t'arrange pas, je vais te créer un endroit à toi, juste pour toi, pour ce qui t'arrange. Non, il nous a dit, voilà, c'est là où les frères et sœurs doivent demeurer unis ensemble, c'est ici, c'est pas ailleurs. Il est nécessaire donc de nous laisser sonder par la parole. Et pour en langage même de l'épître aux Éphésiens, c'est là que se garde l'unité de l'esprit, l'unité du corps, qui ne va pas dépendre de nous, parce que Dieu nous a déjà donné, c'est à nous de l'entretenir avec son aide et par discipline. C'est pour ça d'obéissance à la parole de Dieu, parce que obéir aux choses faciles, c'est ultra simple. Obéir aux choses qui sont un peu plus difficiles, un peu plus touchy, comme dirait beaucoup de personnes, le plus compliqué sur ce qui ne nous arrange pas, ben c'est déjà tout de suite plus compliqué. C'est pourquoi cette unité-là, il nous faut l'entretenir. Mais elle nous est déjà donnée par Dieu et elle est indestructible. Des frères, ce sera toujours des frères. Mais des frères peuvent être unis ou désunis. On peut citer des centaines d'exemples. C'est pour ça que Paul rappelle que nous devons nous appliquer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. On pense aussi à l'importance du thème de l'amour fraternel dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Matthieu 18, 1 Pierre, plus tard dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, 1 Pierre 3, et surtout dans la littérature johannique, les écrits de Jean, donc Jean 13, Jean 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, et aussi dans la théologie paulinienne, comme Paul nous décrit dans Romains 12, Romains 13, 1 Corinthiens 1, Éphésiens 4, 1 Thessaloniciens 4, parmi d'autres. Jésus fait même de l'amour fraternel la condition de crédibilité de la foi chrétienne. C'est-à-dire, à ceci, tous connaîtront, vous êtes mes disciples, si vous vous tapez dessus les uns les autres. C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et à ce moment-là, les gens le voient, se posent des questions, viennent nous interroger. Et c'est l'occasion de répondre dans le témoignage qu'on vit, que cet amour-là, il n'est pas normal et que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de quelqu'un de beaucoup plus haut. Aussi, les croyants sont décrits dans les actes des apôtres avec un seul cœur et une seule âme. On peut voir ça dans acte 2, verset 44, ou acte 4, verset 32. Un seul cœur et une seule âme. Est-ce que nous y sommes ? Il y faut du support. C'est-à-dire se supporter les uns les autres. Il faut du renoncement, il faut de l'humilité. Il faut que j'accepte que les valeurs et les enseignements de Christ deviennent supérieurs dans ma vie à ma propre culture d'origine et à ses nombreux travers, à mon orgueil, à l'influence biaisée de mes émotions, à ma condescendance peut-être même chrétienne évangélique envers tous ceux qui ne le sont pas. Car c'est nous qui détenons la vérité, n'est-ce pas ? Les autres se trompent. Et bien même ça, le Seigneur nous amène à nous questionner. Ce n'est pas juste en argumentant par A plus B, je te prouve que tu as tort et que moi j'ai raison, que l'autre va venir à Christ pour autant. C'est l'amour qui va transparaître, qui l'amènera à se poser des questions. À ceci, tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas verront que vous êtes mes disciples si vous savez argumenter par A plus B comme vous. Ça aussi, ça ne nous arrange pas puisqu'on est dans une culture du débat. Culture occidentale, ce qu'on est toujours à revendiquer, on est toujours à débattre, on est toujours à vouloir argumenter par A plus B que c'est moi qui ai raison. C'est pas ce que le Seigneur demande à son Église. Le Seigneur demande à son Église l'amour. Et l'amour guidera le reste. Il faut la pensée de Christ pour considérer le frère et la sœur supérieurs à nous-mêmes, comme l'enseigne Philippiens, chapitre 3. Est-ce que c'est là mon attitude ? Genre de formule, est-ce que c'est là la vraie attitude que j'ai vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur ? Est-ce que j'arrive aujourd'hui facilement à dire, mais bien sûr, je considère supérieur à moi-même, pas de souci. Est-ce que j'y arrive à dire ça ? Si ce n'est pas le cas, heureusement que le Seigneur nous donne sa grâce et il nous faut compter sur sa grâce. Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Et pour vaincre tout ce que notre chair déteste, tout ce que nous avons énuméré juste avant, en fait, tout ce qui ne nous arrange pas, au final, il nous faut compter sur ça. pour être délivrés de ce qui nous empêche d'habiter unis ensemble. Et au vu de ce qui a été dit depuis le début de ce message, je nous invite à poser cette simple question. Qu'est-ce que je peux faire, moi, membre du corps de Christ rassemblé à Nation de Montreuil, pour prendre conscience de cette unité et de ce qu'elle implique, cette unité, et ensuite transposer cette unité sur le plan pratique dans la vie d'Église? Il y a des choses à faire. On en a discuté longuement hier sur différentes thématiques. Je ne vais pas y revenir, Elisabeth fait ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, il y a quelques indications. Je vous avais dit au tout début du message que Dieu ne nous laisse pas tout seul pour répondre à ces questions, il donne des indications. Et il y en a eu quelques-unes hier qui sont très très intéressantes. Pistes d'application pratique pour expérimenter la communion fraternelle au sens du psaume 133, au sens de ce que Dieu attend de nous, dans une dimension locale et aussi dans une dimension, ce qu'on appelle supralocale, c'est-à-dire hors de l'église locale, mais pour l'église toujours. Il y a plusieurs pistes qu'on peut énumérer pour répondre à cette question et vivre aussi le corps de Christ. Première piste, on est retenu quatre, hein, je vais vous en parler pour terminer. Première piste, c'est prendre part à la vie de l'église locale. Participer aux activités de la vie d'église. Est-ce que frère qui prêchait et qui disait c'est la chose suivante et qui est tout à fait vrai au regard de la parole, un chrétien, un frère, une sœur, loin de ses autres frères et sœurs, c'est une anomalie. La vie de l'église locale, le Seigneur a prié pour l'église avant qu'elle existe. Donc il a voulu l'Église, il a voulu lui insuffler la vie, donc l'activité, pour que cette vie-là se voie. J'ai l'impression que ça s'entend plus trop là. Je regarde juste. Ah non, il n'y a plus de pile, ouais. Ça clignote rouge. On revient juste après la pub. Super, ça marche? Je disais que Dieu a prié pour l'Église avant qu'elle existe et qu'il a donné la vie dans cette Église pour que cette vie se voie et se voie au travers de différentes choses. Et c'est à nous de la faire vivre. Une Église qui va, la communion fraternelle, va connaître d'autres périodes beaucoup moins marquantes à vivre. Elle va d'abord s'essouffler, à défaut d'activité commune, à défaut d'unité, chacun reste dans son coin. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'il y avait des choses que cette pandémie a révélées. Ça révèle justement et ça interroge cette pandémie sur notre compréhension de la communion fraternelle. Deux exemples, les cultes en distanciel. Dans les cultes en distanciel, il y a deux choses qui se passent et qu'on a pu observer, et que là j'observais encore ces derniers mois là. Alors, les cultes en distanciel, on a deux catégories de frères et sœurs qui sont souvent derrière les écrans en distanciel. Il y a ceux qui regrettent, à qui ça manque cette dimension-là communautaire de présence, de voir des vrais gens, de voir des vrais frères et sœurs et qui ont hâte de revenir. Ça, c'est la première. Et pour une raison qui nous échappe, on assiste aussi à de plus en plus, malheureusement, à des frères et sœurs qui restent derrière leur écran, mais qui sont bien chez eux. Ben, j'ai tout chez moi. Hein. D'un clic, je peux faire ce que je veux. Quelle est la compréhension de la communion fraternelle pour ces frères et sœurs-là? Comment on peut prier pour eux? Comment on peut savoir ce qui se passe pour les encourager à revenir? Donc, tout bête, hein. Mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Si on creuse un peu, on peut se dire, tiens, mais ouais, effectivement, nous, ça nous manque, la communion fraternelle manque. Et on a pour qui ça va. Donc, participer, prendre part à la vie de l'église locale. Si on ne sait pas comment, eh bien, je ne doute pas que les responsables que le Seigneur nous a donnés se creusent aussi sur cette question et qu'on peut, en toute humilité, en toute confiance, aller les voir, poser la question. Il y a déjà des choses qui sont faites. Hein. Hier, on en parlait pendant la journée, mais rien qu'aujourd'hui, ce qui se passe derrière, on a le temps de culte pour nous, on a les enfants derrière, on a plein de choses qui se font déjà et qui sont bien et qu'il faut conserver. Mais il faut rester vigilant à ce que ça ne s'essouffle pas, parce que je parlais tout à l'heure des phases difficiles de l'Église. Après l'essoufflement, il y a l'endormissement. Et là encore, c'est quelque chose de terrible, parce que je parle par émotion. Il y a des églises qu'on peut connaître, qu'on peut appeler, qui s'éteignent, qui s'endorment. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'une église qu'on a connue, qu'on a vue la dernière fois, peut-être il y a quelques temps, mais qui était en plein âge d'or. Un témoignage super de l'évangélisation, des activités, vraiment une église à la gloire de Dieu. Et on les revoit, on revoit cette même église quelques temps plus tard, qui est complètement endormie, qui ne fait quasiment plus rien, ou alors qui se persuade de faire des bonnes choses, comme dans une espèce de routine, mais en réalité qui n'a plus aucun impact. Quelle tristesse ! Est-ce que c'est pour ça que Jésus a prié ? Je ne pense pas. Pourquoi il est très important de rester vigilant à cette communion fraternelle, au fait de demeurer habiter uni ensemble, au fait de prendre soin les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Est-il besoin de le rappeler ce matin ? Oui, pour prévenir tout risque de baisse de vigilance. Donc, et ça passe aussi par prendre part à la vie de l'Église locale. Engagez-vous. Chaque personne est un don pour l'Église. Vous savez, Éphésiens 4 nous dit Dieu a donné les autres comme les uns. Donc, il donne d'abord des personnes à l'Église. Comme, et là viennent les fonctions. Mais d'abord, c'est les personnes qui sont. Donc, chacun, Marie-Madeleine, Aurore, Corinne, Virginie, Dani, vous êtes un don pour l'Église. Prenez votre place en tant que membre dans l'Église que Christ a vue. Engagez-vous pour lui. Prenez part à la vie de l'Église locale. Deuxième piste. Alors oui, ça se fait suite à la première. C'est s'engager pour Dieu dans l'Église. Pour le temps que Dieu nous a pas tous éternels, déjà, hein, les scientifiques ont établi des statistiques qui montrent qu'un jour, 100% des hommes et des femmes mourront. Et on est d'accord avec ce chiffre. Mais pour le temps que Dieu nous place là, on n'est pas éternel, mais après le Seigneur peut-être nous appelle au bout d'un certain temps ailleurs, dans une autre église, dans une autre région, dans un autre pays peut-être. Mais pour le temps que Dieu nous place là, aujourd'hui, à notre nation, comment est-ce que je peux m'engager pour le temps que Dieu me place là, dans un ou plusieurs services et aussi avec les dons? Et là encore, il y a des responsables. J'entends souvent dans diverses discussions, oui, mais moi j'ai pas de don, ou alors je sais pas quel don j'ai. Mais ça, c'est pas un problème. J'ai envie de dire, déjà, il faut savoir discerner ce qu'est ce don, et il y a aussi les responsables qui ont des idées, des choses aussi, ou prier avec eux pour que le Seigneur nous montre à discerner ça. Ensuite, nous engager dans des activités. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être de faire normal, des choses comme ça, hein, pour faire des choses pour Dieu. Le ménage, les agapes, alors, quand ça reviendra, on l'espère, on a eu un échantillon hier, c'était vraiment intéressant. Et les agapes, l'évangélisation, la louange, la musique, formons-nous, engageons-nous les uns pour les autres. La formation, tout ça, c'est que des outils. La prière, c'est un moyen que Dieu va utiliser pour révéler ces dons-là pour ceux qui souhaitent s'engager. Et il y a un enjeu derrière pour ceux qui souhaitent s'engager, c'est la relève. Parce qu'on a des responsables. Oui, je disais tout à l'heure, on n'est pas tous là tellement. Il y a un moment donné, où Denis, notre frère Denis, qui avait des soucis de santé aussi la semaine dernière, qui est un des responsables. Imaginons un instant que Denis a eu des problèmes plus graves que ça, qui mesure de faire face à ses responsabilités. S'il n'y a personne pour prendre la relève des dossiers qui sont les siens, comment on fait ? Et dans l'Église, d'une manière générale, et c'est triste parce que c'est déjà arrivé, faute de relève, des églises mettent la clé sous la porte. Il y a des églises qui meurent parce que personne ne prend la suite. Or, Jésus, on en revient toujours à prier pour l'Église avant qu'elle existe. Est-ce qu'il a prié pour ça ? Là encore, je crois. Alors, si nous réfléchissons, il y a un autre point qui va se dégager. On va peut-être, dans un premier temps, se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Se former pour en former d'autres, par exemple, la question du discipulat. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça comme piste ? Parce que si nous réfléchissons bien sur ce psaume de ce matin, c'est parce que depuis qu'il a été écrit, et tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu, par son esprit, a enseigné, il a formé ses serviteurs pour qu'ils transmettent ce qu'ils ont reçu sur la communion fraternelle, comme sur l'unité, sur Dieu lui-même, connaissance de sa parole de manière plus globale. Ils ont réfléchi, ceux qui nous ont précédés, à la communion fraternelle, à l'unité du corps. Ils l'ont expérimenté. Ils ont peut-être parfois aussi fait des erreurs qui les ont enseignées. Et au travers desquels Dieu les a formés pour qu'ils transmettent ça aussi. Donc en 2021, nous, l'Église, nous ayons les clés de compréhension conformes à la parole. Nous bénéficions de cette expérience de ceux qui nous ont précédés et qui les a enseignés, qui les a formés. Ils ont transmis eux-mêmes et formé d'autres après eux pour perpétuer et pour continuer à faire grandir le corps et perpétuer entre autres cette notion, cette compréhension de l'amour fraternel, de c'est quoi l'amour selon Dieu. Si ça s'était arrêté à l'époque des disciples et des apôtres, on ne serait même pas là aujourd'hui. C'est certain, ça. Sauf si Dieu avait manifesté ses plans autrement. Mais un des moyens qu'il utilise, c'est la transmission. Pour parvenir à ce qu'on sache ce qu'il faut, enfin, les exemples et les contre-exemples pour apprendre à demeurer unis ensemble. C'est pour ça que il ne faut pas, bien sûr, y aller au talent. C'est-à-dire, Dieu m'a dit que, alors j'y vais, et puis peu importe ce que les gens pensent, je veux imposer les choses. Il ne faut pas y aller au talent. Il faut réfléchir sa foi, se former soi-même, réfléchir sa foi, développer cette foi et ce zèle réfléchi, pas s'engager dans tous les sens. Mais aussi en vue de former ceux qui succéderont pour passer le relais. Il y a plusieurs outils pour ça, hein. Pour en citer que quelques-uns sur les formations bibliques. Hier, ça avait été abordé, je crois que c'est Zard qui en parlait. Les formations bibliques telles que l'Institut biblique de Nogent, la FLT, le REF, l'AEE, ou d'autres associations pour les jeunes, ça existe, il y a des moyens. N'hésitez pas à voir les responsables pour en discuter. Priez, déjà. J'y reviendrai. Regardons l'exemple même pour ça de Jésus lui-même, le Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui-même qui le dit. Et même s'il avait tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre, il ne s'est pas dit « ouais, je garde tout ça pour moi ». Il a formé des apôtres qui ont formé des disciples, qui ont formé d'autres disciples, et ainsi de suite, durant l'histoire de l'Église après le départ du Seigneur. Et c'est ce qui fait que si nous aujourd'hui on est venu à Christ, on est venu au Seigneur, c'est parce que quelque part on a entendu à un moment la parole, quelqu'un nous en a parlé, un serviteur de Dieu qui lui-même a été formé par d'autres serviteurs avant lui, qui eux-mêmes ont été, voilà, et on peut remonter comme ça jusqu'à cette époque des apôtres. Donc la transmission fait aussi partie de la communion fraternelle. C'est pour ça que j'encourage vraiment à aller là-dedans pour éviter justement ces phases que j'évoquais tout à l'heure d'essoufflement, de ralentissement, et même d'endormissement de l'Église. Et la dernière piste, qui est aussi la plus importante, c'est la prière. Parce que quand on n'a pas trop les moyens, on ne sait pas trop où s'engager, et ben nous, ça nous montre nos limites. Mais quand on arrive à nos limites, on peut s'adresser à celui qui, lui, n'est limité ni dans l'espace, ni dans le temps, et qui, lui, en plus, il a un plan. Pourquoi pas lui faire confiance, du coup ? Priez, seul, ensemble, en assemblée, partout, tout le temps. Priez, Saint Thessalonicien, 17-17. Les sujets ne manquent pas. Thessalonicien, 5-17. Les sujets ne manquent pas pour les petits, comme pour les grandes choses, pour les petites. Comme le Seigneur, je ne sais pas quelle filière d'études je vais entreprendre, ou pour les grandes choses, Seigneur, comment aider nos frères et sœurs persécutés par ailleurs ? Le Seigneur est le Dieu de l'infiniment grand, le Dieu de l'infiniment petit. Et on peut prier particulièrement aussi les uns pour les autres. Ce qui a été fait, j'en ai bénéficié de vos prières depuis un certain temps, mais particulièrement depuis la semaine dernière. J'en ai bénéficié. Et c'est vraiment une grâce de faire ça les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres. Ne boudons pas notre plaisir. Priez particulièrement, oui, aussi, parce que les responsables ont une charge de vous. Il faut prier pour eux. Parce que si le mot charge de responsable est là, dans l'expression, ce n'est pas un hasard. C'est pas une chose. Ils sont comme nous. Ils ont une famille, ils ont un travail, ils ont des pressions, des factures à payer, comme nous. C'est juste que devant Dieu, ils ont reçu cet appel particulier de faire paître le troupeau. Donc au moins par la prière, notre devoir en tant que frères et sœurs unis ensemble dans cette construction qui est l'Église, c'est de prendre une part de cette charge au moins par la prière pour les soutenir. Un autre focus que j'aimerais vous alerter, c'est ceux qui sont difficiles à aimer. Là, on touche les choses. Parce que aimer, prier pour ceux qu'on aime, là encore, c'est ultra facile. Maintenant, je disais tout à l'heure, la communion fraternelle, ce n'est pas une histoire d'atomes crochus. Il y a aussi, oui, bien sûr, dans l'Église, il y a des morts. Et il y a des brebis qui sont beaucoup moins faciles à aimer que d'autres, avec qui on a peut-être moins d'affinité, avec qui on n'a pas trop envie, charnellement en parlant, d'avoir des moments en particulier. Ça peut arriver. Le Seigneur l'avait prévu aussi. Néanmoins, quand on se réjouit avec ceux qui se réjouissent et qu'on pleure avec ceux qui pleurent, on doit aussi être capable de pleurer et de se réjouir pour celui qu'on a un peu de mal à aimer, celui vers qui on a un peu de mal à aller. Genre, je dis celui ou celle, ça dépend. Mais toujours est-il que le Seigneur a fait de nous des frères et sœurs, qu'il attend de nous, on l'a lu là dans le psaume 133, qu'on soit unis les uns et les autres, et qu'on demeure unis ensemble dans cette même construction. C'est ça l'Église. L'amour, la communion éternelle, c'est tout cela. Habiter et demeurer unis ensemble. Je reprendrai le texte du psaume, c'est là. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui va descendre des montagnes de Sion. Car c'est là, avec tout ça, tout ce qu'on a réfléchi ce matin, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Je vais demander aux musiciens de regagner, parce qu'il y a un chant que je ne connaissais pas avant. Et qui vraiment, de manière vraiment très intéressante, fait écho à cette réflexion. Je vous donne juste la phrase maîtresse de ce chant. Alors, peut-être certains d'entre vous le connaissent, peut-être ne le connaissent pas, mais au moins, on va méditer sur les paroles si on ne connaît pas. La phrase maîtresse de ce chant, c'est « Nous sommes une seule Église ». Je vous laisse méditer là-dessus. On médite ensemble les paroles. Ceux qui connaissent l'air peuvent l'entonner. Et après le chant, je clôturerai par la prière.
Thank you.
n'avons qu'un seul Père. Pour nous, c'est offert quand nous étions encore indignes et pécheurs. Faisons-lui honneur. Parce qu'il s'est offert, là, je vous disais tout à l'heure, il a prié pour cette Église pour qu'on lui fasse honneur. Ephésiens 1 nous rappelle que nous avons été choisis pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. L'Église, cette construction où nous sommes appelés à demeurer unis ensemble, vaut le coup qu'on se batte pour elle, qu'on soit vigilant. Je terminerai avant de prier par cet encouragement qui fait aussi écho à ce qui a été dit ce matin. Philippiens 2, versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite, en vie en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la place la plus haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chaque genou plie dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue connaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous connaissais avant même qu'on existe. Tu savais ce que deviendrait l'Église avant même qu'elle existe. Et tu as prié pour elle en ce sens. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que ça nous sort d'une oreille et que ça sorte par l'autre, toutes ces recommandations, ces avertissements, ces encouragements que tu nous donnes dans ta parole, notamment dans ce psaume de David que nous avons lu ce matin pour nous exhorter à la communion fraternelle, la vraie, celle qui vient de toi, pas juste celle que nous avons conceptualisée avec notre petite chair et intelligence humaine. Mais Seigneur, que ta gloire se voit à travers l'Église, qu'au travers de nous, les autres, se posent des questions. Qu'on s'aime à tel point, Seigneur, que tu l'as voulu, à ce point même que tu l'as voulu, jusqu'à ce que les gens dehors, qui ne te connaissent pas, se demandent pourquoi. On s'aime comme ça et que, Seigneur, merci de créer les occasions pour qu'on puisse leur expliquer. Mais donne-nous d'abord de vivre cet amour que tu veux avant que nous allions en parler aux autres. Seigneur, que nous vivions, que nous soyons vrais, que nous soyons une vraie Église, mais que nous soyons aussi une Église vraie dans ce qu'elle fait en ton nom et pour ta gloire.